Vous écoutez l'émission Portrait d'un colonialiste.
On a des choses qui sont peut-être parfois moins visibles ailleurs, là où des conflits parfois sont réglés et souvent ont été réglés à nos dépens par la classe des dominants ou des gouvernants. Le fait qu'en Palestine le conflit soit toujours vivant et toujours vif et voilà, et toujours présent fait qu'il y a encore des choses qui nous amènent à réfléchir sur là effectivement il y a des liens qu'on peut faire, l'agriculture, le rapport à la terre, le fait que quand je cultive ma terre en fait je suis aussi autonome politiquement et dans mes idées, etc. Et donc ces choses là qu'on peut voir en Palestine, on les voit peut-être moins ailleurs, ou peut-être qu'elles sont moins faciles à dire ailleurs, et parfois de passer par le cas palestinien ou d'autres cas comme ça à travers le monde permet de mieux formuler dans nos têtes et peut-être dans le discours aussi qu'on porte.
La voix que vous écoutez est celle de Tahar Labadi, avec qui on va parler d'économie et d'autonomie alimentaire. Cette discussion avec Tahar se fera en plusieurs épisodes. Dans ce premier épisode, on va également écouter le témoignage de Fayez, un agriculteur palestinien. Et je vais laisser Tahar se présenter.
Bonjour, moi c'est Tahar, donc je suis palestinien, j'ai grandi en France, fait mes études en France et je suis revenu, je suis venu en Palestine il y a de ça 4-5 ans maintenant, en tant que chercheur en économie politique. J'ai fait mes études, une thèse en économie et j'ai donc poursuivi dans ce domaine-là, le domaine universitaire, à travailler et à m'intéresser sur des questions d'économie politique liées à la Palestine et à la région un peu plus dans son ensemble. Et donc je suis venu en tant que chercheur dans un institut français, mais voilà, au fil des années, je me suis aussi fait ma place dans des universités palestiniennes. Et aujourd'hui, je suis... mon activité principale, c'est d'être enseignant et chercheur dans les universités palestiniennes, donc plusieurs universités à Bethlehem et à Birzeit.
Alors vous êtes bien dans l'émission Portrait d'un colonialiste, l'émission radio qui essaie de comprendre les rouages et les stratégies du colonialisme toujours à l'œuvre aujourd'hui, et qui essaie de donner à écouter les témoignages de personnes qui vivent sous ce régime colonial. Donc vous l'aurez compris, on va parler de Palestine et du colonialisme de peuplement. Alors le colonialisme de peuplement, c'est un colonialisme dont le but est de prendre, de voler on va dire, la terre des personnes présentes donc, sur cette terre. Donc au final de remplacer la population présente sur cette terre. C'est un peu comme ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique, en Australie ou pendant l'Algérie française. C'est bien ça, je fais une bonne définition?
Oui, c'est ça, colonialisme de peuplement, qu'on dit aussi colonialisme de remplacement parfois, avec effectivement cet objectif-là de remplacer la société locale par une société de colons arrivés d'ailleurs.
Du coup, moi je voulais commencer par un peu d'histoire. Donc j'ai lu rapidement que les villes comme Jérusalem, Ramallah, Bethléem, Jéricho, Naplouse ou Gaza se sont développées très tôt dans l'Antiquité, que la Palestine était déjà et encore un carrefour de commerce entre l'Asie et l'Europe. Et je voulais savoir si tu pouvais un peu nous développer qu'était l'économie palestinienne sous l'Empire ottoman, juste avant le mandat britannique.
Alors, on a des travaux qui ont montré comment, à des temps très très anciens, il y avait déjà des traces d'économie et de vie urbaine et d'agriculture, etc. Donc... tout plein de belles choses à explorer. Je ne saurais malheureusement pas vous en dire beaucoup plus à ce niveau. Pour ce qui est peut-être de la période déjà plus récente, qui est de l'ère ottomane et même de la fin de l'ère ottomane, en fait, il faut prendre des précautions sur l'ère ottomane parce qu'on a souvent, dans les études sur cette période-là, tendance à s'intéresser surtout sur la fin de l'ère ottomane, qui est la période qui précède en fait l'arrivée des premiers colons sionistes arrivés d'Europe. Et donc c'est une période qui intéresse particulièrement et
l'historiographie israélienne et l'historiographie israélienne et occidentale, et y compris l'historiographie arabe et palestinienne, en vérité, c'est une période qui est déjà marquée par un empire ottoman qui est fatigué, l'homme malade de l'Europe qui était appelé à cette époque. Et donc on a une économie qui est déjà à la fois au début du 19e siècle assez fatiguée, et en même temps on va avoir tout au long du 19e siècle des changements économiques et sociaux très très importants qui vont être dus à la montée en puissance des puissances européennes qui commencent petit à petit à grignoter l'Empire ottoman sur les marges et à commencer à interagir avec cet Empire ottoman et notamment avec la Palestine. Et donc on va avoir un regain d'activité économique, mais qui est aussi un début de ces liens de dépendance qui vont être créés avec la région, où en fait ces régions-là de l'Empire ottoman vont être liées dans un commerce avec l'Europe, un commerce de dépendance en fait. Donc voilà, c'est un peu ce qui se passe. Et du coup, quand on s'intéresse à cette période de l'Empire ottoman, on est aussi dans un moment où, par exemple, l'Empire ottoman va adopter tout un nombre de lois, de réformes qu'on appelle les Tanzimat, et qui sont des réformes qui ont pour vocation de calquer le modèle européen sur l'Empire ottoman. Donc c'est aussi là qu'on commence à avoir une pénétration du modèle capitaliste, du modèle de l'État-nation. On a des lois qui vont, par exemple, encourager la propriété privée, ce qui n'était pas encore quelque chose de très courant à cette époque dans la région. Et donc, on a tout un tas de lois qui permettent, qui vont encourager le commerce avec l'extérieur et en fait avec l'Europe, qui vont, encore une fois, protéger la propriété privée, qui vont permettre un essor financier, la création des premières institutions financières aussi, de type moderne, bancaire. Donc voilà, c'est une période assez intéressante pour ça, parce que c'est un peu les prémices, finalement, de la pénétration coloniale en Palestine, avant que les soldats coloniaux viennent à proprement parler sur ce terrain.
Alors je vais faire une petite aparté parce que c'est une question que j'ai pas résolue. Est-ce que toi tu as entendu parler justement dans ces questions de propriété et tout? J'ai l'impression que les Palestiniens m'ont raconté que du coup sous l'Empire ottoman il y avait par exemple un endroit, une colline assez haute où il fallait aller payer en fait pour avoir un titre de propriété, et que pas mal de gens n'ont pas forcément pu le faire, donc il y a eu pas mal de personnes qui ont perdu leur terrain, ou que c'est une certaine bourgeoisie qui l'a racheté, et que par la suite, du coup, ça a été aussi une base de la pénétration colonialiste par la suite.
Ouais, c'est un peu ça que j'essaie de dire, en peu de mots, mais effectivement, ce qui se passe, donc on a des lois successives qui vont venir encourager la propriété privée dans cette région. La logique qu'il y a derrière, c'est intéressant parce que ça permet de voir comment aussi la pénétration du capitalisme est liée, encore une fois, à la pénétration de l'État moderne, ce qu'on appelle l'État-nation. C'est qu'on a un empire ottoman qui a besoin de lever des impôts, qui jusqu'ici levait des impôts, comme dans d'autres parties du monde, sur les récoltes, et qui en fait va vouloir calquer le modèle européen de collecter des impôts sur la propriété. Et pour ça, il faut qu'il y ait des propriétaires. Et donc, il va y avoir ces lois qui vont encourager la propriété privée à des fins de pouvoir collecter des impôts après coup. Sauf que pour les paysans, ça va être justement, ils vont comprendre cette logique, et certains vont vouloir éviter de payer ces nouveaux impôts, ne vont pas comprendre pourquoi, quel est l'intérêt pour eux d'enregistrer une propriété. Et en fait, la loi était que chaque personne qui travaille un lopin de terre, en fait, peut aller déclarer sa propriété privée sur cette terre. Et les paysans vont refuser cette logique, en pensant que ça ne leur apportait rien. De toute manière, ils sont déjà en train de cultiver cette terre et que ça leur suffisait. Et donc, ne comprenaient pas la logique de s'approprier ce qui était déjà à leur disposition d'une certaine façon. Et puis on avait autre chose aussi, c'est qu'on avait un système communal de gestion de la propriété, en fait, qui n'était pas une propriété, mais où chaque village s'organisait pour faire circuler la terre tous les 5 ou 10 ans. C'est le système qu'on appelle le Machara, qui est le système des communs, en fait, si on veut le traduire en français. Et donc les terres étaient redistribuées. Voilà. Et donc l'idée d'avoir une terre qui se transmet de génération en génération n'avait pas vraiment de sens à ce moment-là. Et donc, effectivement, il va y avoir une certaine bourgeoisie qui va comprendre tout l'intérêt de cette logique d'appropriation et qui va d'abord s'approprier des terres et puis il va proposer aux paysans d'enregistrer les terres en leur nom pour éviter que les paysans n'aient à payer d'impôts. Et donc, on va avoir un début d'accumulation foncière très, très important et avec des grands propriétaires terriens qui commencent à émerger à cette époque. Donc, de la fin de l'Empire ottoman, on est vraiment à la fin du 19e siècle, là. Et c'est ces mêmes propriétaires qui vont, en fait, faire ensuite fructifier leur valeur immobilière et puis revendre pour certains, pas tous, hein, une minorité d'entre eux, mais c'est aussi eux qui revendront au mouvement sioniste quand il viendra pour acheter des terres, parce que c'est des terres avec lesquelles il y a très peu d'attachement. C'était vraiment juste l'intérêt immobilier de cette terre qui primait. Et donc on voit quelque chose, alors que les paysans refusent de s'approprier et refuseront de vendre aussi leurs terres, selon cette même logique.
On sent déjà pointer effectivement le colonialisme derrière, enfin le colonialisme et le capitalisme aussi derrière le colonialisme. Du coup, je fais juste un petit rappel que c'est dans l'ambiance de la fin du 19e siècle, début du 20e, donc vers 1900, que les sionistes, des nationalistes bourgeois juifs d'Europe centrale, commencent à militer auprès des nations coloniales, comme l'Angleterre, pour la création d'un État juif. Alors, il y a quelques hésitations au début sur la région, ils hésitent à aller vers l'Ouganda, mais la déclaration de Balfour en 1917, qui annonce le soutien des Britanniques à un projet sioniste en Palestine, fait que les sionistes mettent tout leur effort à la colonisation en Palestine. Donc on pourrait un peu dire, j'ai l'impression que c'est le point de départ d'un colonialisme de peuplement. En Palestine, moi j'ai un peu lu un texte de Hassan Kalafani qui s'appelle « La révolte de 1936-1939 en Palestine ». Donc il parle de ces révoltes, mais aussi de ce qui est mis en place après 1917 avec le colonialisme anglais. Sous le mandat britannique, du coup, il parle des différentes stratégies, notamment économiques, et notamment des sionistes et des anglais, pour écarter les Palestiniens des questions économiques qui les concernent à différents niveaux. Moi, ce que j'ai compris un peu, c'est que les sionistes, ils ont créé de leur côté des organes pour s'installer en terre de Palestine et remplacer les Palestiniens, donc aussi remplacer leur secteur économique. Dans le texte de Kalafani, il y a plein de choses qui sont racontées, un peu comme ce que tu as fait juste avant, et aussi qui sont analysées par Kanafali. Dans les textes de Kalafani, il raconte par exemple pas mal de personnes qui sont expropriées et privées de leurs terres, les Palestiniens, et qui cherchent des moyens de subsistance et qui sont un peu obligés de partir à la ville. Et qu'on retrouve énormément de personnes qui ont perdu leurs terres, qui sont des personnes qui sont employées dans le ramassage des ordures de la ville. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur la stratégie un peu qui est à l'œuvre de 1917 à 1948?
Déjà, je pense que le rappel, ton rappel, il est important parce que c'est important déjà de rappeler qu'on est dans un jeu à trois au moins. À trois, c'est-à-dire que les Britanniques ont aussi leur rôle et leur place dans ce qui est en train de se dérouler à ce moment-là. Je dis ça pourquoi? Parce que les Britanniques ont eu tendance à raconter ce moment comme un moment où eux étaient là en tant que force mandataire, un peu comme une force neutre, à essayer de concilier les intérêts et les attentes de deux parties, que sont d'un côté la population arabe palestinienne et de l'autre côté la population des...
Je me permets juste de couper et justement de citer une phrase que j'ai trouvée de Kanafani, qui est « La Grande-Bretagne fut convaincue qu'elle devait se lier aux sionistes qui la mettaient dans une situation unique qu'elle n'avait eue dans aucune colonie, celle d'avoir à sa disposition une force faisant cause commune avec le colonialisme britannique et fortement mobilisée contre la population locale. »
Alors c'est ça, c'est que l'intérêt du texte de Kanafani, c'est de montrer comment il y a une connivence entre deux de ces parties donc la partie britannique et la partie sioniste. Mais effectivement, en même temps, elles sont distinctes. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les Britanniques qui arrivent donc avec une force militaire, qui conquièrent la Palestine ottomane et qui vont, à l'époque, obtenir de la Société des Nations un mandat qui leur donne la responsabilité de mener la population vers l'autodétermination. Il y a plein de mandats qui sont accordés comme ça à la France et à la Grande-Bretagne à l'époque. La particularité du mandat sur la Palestine, c'est que, au lieu d'accompagner la population palestinienne vers l'autodétermination et l'indépendance, ce qui va se passer, c'est que le texte du mandat donc donne mandat aux Britanniques d'accompagner le mouvement sioniste vers l'autonomie en Palestine avec la fondation d'un État national, d'un foyer national, pardon, pour le peuple juif. Donc on a ce mandat déjà qui pose un cadre qui désigne les populations arabes palestiniennes comme la population non juive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reconnaissance de leur statut politique et de leur existence politique, population non juive dont il faudra protéger les droits civiques et religieux, civils et religieux, pardon. Mais donc il n'y a pas de mention d'une quelconque reconnaissance politique. Donc ça, c'est pour le cadre. C'est la partie britannique qui va ensuite gouverner la Palestine donc jusqu'en 1947. 48, pardon. Et de notre côté, on a donc le mouvement sioniste qui se forme en Europe et qui, depuis l'Europe, se dote d'institutions et d'organisations qui ont pour vocation d'aller matérialiser ce projet sioniste en Palestine. Et parmi ces institutions, donc il y a l'agence juive qui fait office d'un espèce de cabinet de gouvernement, mais il y a aussi le Fonds national juif qui a pour objet d'aller acheter des terres, un maximum de terres en Palestine qui vont donc servir de base, de fondement à la création de ce foyer national.
Et juste du coup pour les dates, là on est, c'est à quel niveau les créations de ces institutions ?
Quand je parle de l'agence juive ou du foyer national juif, on est encore à la toute fin du 19e, début du 20e.
On reviendra sur cette période dans le prochain épisode, mais là, on va parler des techniques coloniales de nos jours en Palestine. Alors, je voulais continuer en parlant de la campagne et de l'autonomie alimentaire. Dans le texte de Kalafani sur les révoltes de 36-39, il montre bien comment c'est une révolte, comme tu l'as dit, paysanne, qui fait qu'on enlève la terre aux Palestiniens, caractères sont rachetés par les sionistes. On a parlé aussi de la grande bourgeoisie palestinienne qui, des fois, a pu avoir accès à l'achat de ces terres et les a revendues aux organismes sionistes. C'est ce qui a fait aussi, du coup, qu'une partie de ces paysans devient saisonnier ou part à la ville pour chercher d'autres moyens de subsistance. Donc, dans la révolte de 36-39 qui vient de là, il y a la privation de l'accès à la terre qui est un moyen de subsistance et d'autonomie des Palestiniens face aux colons britanniques et à son allié sioniste. Donc juste pour dire que la terre, elles sont quand même vachement liées à la question de la résistance, mais aussi à la possibilité de résister. Si tu veux résister, il vaut mieux pouvoir se nourrir, et qu'à partir du moment où tu as une autonomie, en tout cas tu peux te nourrir, tu n'es pas obligé d'acheter à l'État israélien. Ça facilite beaucoup la résistance. Moi j'ai l'impression que l'État israélien, il a envie un peu de détruire le lien qu'ont les Palestiniens avec la terre, pas mal de traditions palestiniennes, notamment détruire son autonomie possible et son indépendance. Juste pour dire que moi, dans les campagnes, j'ai pu observer des pratiques d'autonomie ou d'autosuffisance que je ne connaissais pas du tout, même au niveau de l'énergie, le fait d'utiliser le broyat d'olive comme combustible ou le caca des chèvres et des brebis pour alimenter un four continuellement et nourrir une nombreuse famille, voire une famille élargie, voire le village. Voilà. Du coup, moi, en écoutant tes différentes interventions, j'avais l'impression que la stratégie, c'était de forcer la société palestinienne à rentrer dans le capitalisme mondial et de les faire consommer des produits mondialisés, non locaux. Voilà, je voulais savoir un peu aujourd'hui ce qu'il en est du colonialisme et du capitalisme principalement sioniste sur l'agriculture.
Y a plusieurs choses qui se jouent en même temps quand on parle des campagnes et de la société rurale palestinienne. Il y a d'abord, je reviens un peu là-dessus, sur cette logique d'élimination, c'est-à-dire que il est entendu que les Israéliens essayent de s'approprier et de contrôler un maximum de terres comme le moyen de voilà, d'asseoir définitivement leur souveraineté sur cette partie du monde. Et que ça passe par différents moyens, donc soit par la force en expulsant lorsqu'il y a des guerres ou des occasions pour ça, soit par des décrets militaires, par exemple, de décréter que telle zone est inaccessible pour des raisons militaires et sécuritaires, et donc d'empêcher les Palestiniens d'y accéder, soit en bricolant par les voies légales pour faire que, par exemple, décréter, il y a une loi, par exemple, qui est la loi des absents, qui fait que une terre qui n'a pas été travaillée pendant un certain nombre d'années peut être prise par Israël en tant que puissance occupante et donc puissance publique. En fait, ce qui se joue là, c'est que comme Israël contrôle qui accède ou pas à la terre, elle peut empêcher des Palestiniens d'accéder à la terre pendant 5 ans et au bout de 5 ans dire, ben, en fait, comme la terre n'est pas travaillée, et ben, légalement, je peux m'approprier cette terre. Et donc il y a un bricolage comme ça de dispositifs et de mécanismes qui sont à la fois militaires, légaux, etc., qui permettent aux Israéliens de continuer à s'approprier l'espace, à l'occuper, à le contrôler, à établir des colonies, etc., et à s'étendre. Et en revanche, les Palestiniens sont amenés à de plus en plus se regrouper dans des espaces de plus en plus réduits et donc à avoir une relation à la terre qui est de plus en plus distante. Et donc là, on a cette logique d'élimination et donc d'expansion d'un côté qui se fait au détriment d'une population qui, elle, est de plus en plus amenée à se concentrer, puis l'objectif, c'est de les pousser à sortir.
Je voulais juste du coup illustrer un peu ce que tu dis, notamment pour la question militaire. Il me semble qu'il y a beaucoup de zones militaires qui ont été décrétées vers Massa Ferriata, et que notamment le film No Other Land qui parle pas mal de ça. Et si on parle du coup de l'agriculture, pour que tu continues un peu là-dessus, tu as dit que les Palestiniens étaient un peu mis à distance maintenant de la question de l'agriculture. C'est vrai que moi j'ai beaucoup croisé de gens qui faisaient ça, et ça représente quoi? Parce que j'ai vu des cartes, notamment on a parlé de Gaza, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'endroits à Gaza qui étaient cultivés, en tout cas qui avaient une grosse question sur le territoire de Gaza pour essayer de cultiver au maximum. C'est quoi la population agricole en Cisjordanie, quoi?
C'est très difficile. J'ai pas de chiffre exact de combien représente le secteur de l'agriculture en termes d'emploi, mais je suis pas sûr qu'il veuille dire grand-chose non plus parce qu'on va avoir beaucoup de personnes qui vont avoir une activité agricole en plus d'autres activités qui vont revenir. Et ça se fait encore plus depuis le 7 octobre et toutes les difficultés économiques qu'on connaît, qui fait qu'on a plein de gens qui sont un peu revenus à la terre, au moins pour leurs besoins, pour le besoin de la famille. Et donc pas pour des pas comme d'une activité pour le commerce. Mais c'est déjà quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que comme à Gaza, en fait, depuis le 7 octobre, la fermeture, le cloisonnement de la Cisjordanie a forcé des gens à revenir à une économie plus locale, plus de subsistance, qui effectivement se traduit par un appauvrissement aussi très concret. Mais veut dire aussi qu'on est dans quelque chose de plus réel et de plus concret, d'être moins dépendant finalement du contrôle israélien comme ça pouvait l'être avec les travailleurs dans les colonies. Mais il y a un contrôle qui se fait. Le rapport à l'agriculture, donc il y a d'abord la colonisation et l'accaparement des terres. Il y a aussi le contrôle de l'eau qui est très 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 puissant. En fait. toutes les sources aquifères de la Cisjordanie, c'est Israël qui les contrôle et qui empêche les Palestiniens de creuser des puits et donc de pouvoir accéder à l'eau. Du coup, l'eau coûte très cher. Dans certains endroits, il n'y a pas d'eau. Et donc, on a une agriculture qui est aussi très fragile parce que dépendante d'une eau qui est pas toujours là. Donc, contrôle de terre, de l'eau. Et puis après, il y a ce que je disais aussi, de contrôle de la circulation hors du territoire et de la circulation en son sein. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, un paysan qui produit à Jénine, il n'est pas sûr de pouvoir exporter ses produits sur toute la Cisjordanie parce qu'il y a des checkpoints qui se sont encore multipliés depuis le 7 octobre. Mais il y a un contrôle, il y a une fragmentation du territoire. Ce que je veux dire, c'est que ça fait que... Je disais tout à l'heure qu'on a plein de paysans, par exemple, qui ont abandonné leurs terres un moment pour aller travailler dans les colonies israéliennes ou dans l'économie israélienne, vient du fait que l'agriculture est devenue une activité à gros risque. C'est-à-dire que si on n'est pas assuré d'avoir de l'eau, si on peut voir un colon débarquer à n'importe quel moment pour brûler les récoltes et les olives, les oliviers, etc. Si on n'est pas sûr que la production va pouvoir être exportée à temps, etc., fait qu'il y a plein d'agriculteurs qui ont dit « mais en fait, c'est une activité perdue d'avance ». Et donc, on a abandonné l'agriculture pour aller vers d'autres secteurs, qui les rend plus dépendants, effectivement, du capitalisme global ou qui les rend plus dépendants de l'économie israélienne, etc. D'où ces initiatives dont je parlais, de coopératives agricoles, etc., qui disent, malgré le fait que ce n'est pas une activité facile, si on se met à plusieurs, qu'on mutualise un peu les risques et les difficultés, on peut peut-être essayer de maintenir une activité. Mais il faut accepter que ça va être très dur à maintenir comme activité. Donc voilà, un peu le rapport à la terre, il se joue là-dessus, sur ce fait que... qu'on est dans un contexte où oui, il y a une vraie lutte sur l'espace. J'aimerais dire une chose là-dessus, ça me fait revenir à ce que je disais de cette époque de la fin de l'Empire ottoman, où on a de l'ère ottomane, où en fait on a favorisé la propriété privée. Il y a ici quelque chose dans le contexte palestinien qui montre que la terre, c'est plus qu'un bien immobilier. Finalement, ce qui se joue derrière cette appropriation et dépossession de biens fonciers, c'est des espaces de vie. Et donc, il ne s'agit pas juste d'une propriété privée que j'achète et que je garde et que je vais pouvoir léguer à mes enfants. Il s'agit de à quel point l'espace de vie des Palestiniens est en train de se réduire de génération en génération.
On va maintenant écouter Fayez, un Palestinien qui habite à Toul Karem, en Cisjordanie. Toul Karem est une grande ville palestinienne de Cisjordanie. Elle est coupée par le mur de séparation, le mur d'apartheid, construit par Israël dans les années 2000.
Okay, sabah el khair lel jami', ana ismi Fayez Attanib.
Bonjour, je m'appelle Fayez Attanib du village de Hirta. J'ai commencé à travailler dans l'agriculture en 1984, après que les conditions de vie et les conditions économiques de ma famille se soient empirées. J'étais étudiant dans le secondaire en 1979 et j'étais actif dans des activités militantes, dans des syndicats étudiants, pour améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants et pour pouvoir avoir accès au matériel pour les études. Après mon bac, j'ai essayé d'aller étudier en dehors de Palestine et j'ai été arrêté à la frontière. Je suis resté 32 jours dans le centre d'interrogatoire, dans le centre de rétention. Et quand je suis sorti, j'ai eu une interdiction de travailler dans les territoires de 48. Et donc, pour moi, c'était très compliqué au niveau économique. Donc, j'ai travaillé pendant 3 ou 4 ans dans le bâtiment. Dans cette période-là, j'étais représentant syndical des ouvriers dans le bâtiment, dans l'objectif de réclamer les droits du travail de ces ouvriers. Cela m'a causé d'autres problèmes parce que l'occupant, me voyant comme militant, ils avaient peur que je puisse organiser des actions ou autre chose contre l'occupation. Enfin, des actions armées notamment. Mais moi, au niveau personnel, et j'ai 68 ans, dans ma vie, je n'ai jamais pensé aller dans cette direction-là. Moi, je ne reconnais pas la légitimité de l'occupation. Je refuse l'occupation avec toute ma force. Mais j'ai choisi, pour moi, le moyen qui est le plus souhaitable, qui me convient le plus, pour lutter contre cette occupation. Et moi, je ne crois pas dans les actions de violence et dans le fait de tuer. Même si je suis très conscient que l'occupation ne fait pas de différence entre ceux qui font la lutte armée et les autres. Pour eux, tout est la même chose, tous sont les mêmes. Et donc quand les conditions de vie et la situation a été difficile pour moi, j'ai essayé de trouver des solutions ou des exemples à partir des exemples même simples que j'avais connus dans ma vie, ou dont j'avais lu. Par exemple Gandhi, d'aller vers l'agriculture pour soutenir ma famille. Et ce qui a aidé, c'est que il y avait cette ferme de mon père qui existait depuis les années 50. Mon père qui est mort en 1983. Et donc quelques mois après, il y avait un centre d'entraînement de l'armée. Et l'armée, en voyant que cette ferme était là, à côté du centre d'entraînement, ils ont commencé à l'utiliser, à venir quotidiennement dans ma ferme. Et moi, j'étais conscient de ces pratiques de l'occupation et donc du fait que si personne ne retournait à cette terre allait être confisquée par une partie du centre de l'armée. Donc je suis allé voir les gens du village, et on s'est dit, il faut revenir à cette ferme. Et donc je suis revenu à ce qui était la ferme de mon père. À la fois car j'ai vu ça comme une occasion de pouvoir nourrir ma famille, vu que mes conditions économiques et de vie étaient très précaires, et en même temps je protège cette terre pour qu'elle ne soit pas confisquée par l'occupation. Et je me suis dit que ça allait être simple, que j'allais revenir à la ferme et que la question serait finie, et que j'aurais pas laissé la possibilité que ce soit confisqué parce que je l'utilisais. J'aurais pas cru que ça m'aurait pris autant de temps. Ça m'a pris d'abord 8 mois. Pendant 8 mois, chaque jour je me rendais sur cette terre. Chaque jour j'étais victime de la violence de l'armée, des formes d'humiliation. Chaque jour j'allais replanter le peu de choses que j'avais pu me procurer. Et chaque jour, tout ce que je plantais, tout ce que je mettais en place, aussi pour irriguer la ferme, tout était détruit par l'armée. Ces 8 mois m'ont paru très très longs. Et suite à ces 8 mois, les soldats sont partis. Mais ces 8 mois ont réussi à créer un lien profond avec la terre, avec ces végétaux. Ces végétaux qui arrivaient à pousser, qui avaient survécu à la violence de l'armée. Le fait de pouvoir cueillir, d'avoir entre tes mains des fruits, de pouvoir replanter les graines, et de te rendre compte que tu étais en train de produire toi-même de la nourriture pour ta famille. Tout ça a créé une relation qui est impossible à décrire avec les mots. Une relation extrêmement forte avec toutes ces petites plantes, ces boutures, avec chaque bouture. C'est vraiment une relation impossible à décrire avec les mots. Seulement ceux qui ont réussi à faire pousser sous la violence pourraient comprendre ce que je veux dire. Qu'est-ce que c'est cette relation? C'est devenu peu à peu mon travail, et moi j'aime bien réussir dans mon travail. Du coup j'ai fait des recherches, j'ai regardé les techniques, j'ai commencé à acheter des serres, ce qui m'a permis de contourner les problèmes dus au climat, à l'absence d'eau. J'ai réussi à me libérer des soldats donc qui s'entraînaient sur ma terre. Mais peu après, on commençait les travaux d'une usine israélienne à côté de la ferme. Donc on a commencé à faire une enquête pour savoir de quoi il s'agissait exactement. Et on a eu la mauvaise surprise de découvrir que c'était une usine chimique israélienne. Et cette usine était présente dans un village israélien à côté de Natagne. Et les membres de la communauté de ce village sont allés voir le juge parce que cette usine était dangereuse pour la santé et dangereuse pour les activités agricoles à cause de la pollution. Et donc le juge, au bout d'un mois, l'a fermée en donnant raison aux gens de cette communauté. Et évidemment, c'est ces mêmes personnes qui vont fermer l'usine en disant qu'elle est dangereuse en Israël va utiliser la force des armes pour prendre une partie de la terre aux Palestiniens en Cisjordanie et imposer la construction de cette usine qui est dangereuse, et ils le savent. Et là ont commencé nos difficultés extrêmes et nos problèmes avec cette usine. et les patrons de cette usine, qui d'abord est une usine très polluante. Et en plus, les patrons de cette usine ont une vision où ils veulent prendre de plus en plus de terres pour élargir de plus en plus leur usine. Et notamment, une partie de la terre qui appartient à notre ferme. À commencer là nos difficultés et nos souffrances, à travers des menaces, à travers des formes de provocation, de violence. L'armée qui vient, qui nous menace, qui détruit une partie de la ferme, qui nous asperge de substances chimiques, qui renverse les substances chimiques dans notre ferme. Et tout cela avait des conséquences sur nous, sur notre production agricole. Et donc je me suis informé de plus en plus sur qu'est-ce que c'est la pollution, qu'est-ce que ça veut dire la pollution chimique, comment ça arrive dans les plants, quelles sont les conséquences. Et donc j'ai commencé à chercher des informations sur Internet et ailleurs pour arriver au moins à un niveau minimum d'information. Et j'étais très surpris de découvrir combien de millions de personnes sont mortes à cause de la pollution, combien de femmes sont devenues stériles à cause de la pollution, et combien chaque jour il y avait des personnes qui meurent ou qui tombent malades à cause de ces produits chimiques et de cette pollution. Et donc je me suis rendu compte que moi-même et ma femme qui était avec moi dans la ferme, chaque petit déjeuner qui venait de la ferme était une assiette de cancer. Et donc si chaque tomate, chaque oignon, chaque concombre est pollué, si tout ce que nous produisons est pollué, nous sommes en train de nous auto-tuer. Et pas que nous-mêmes, aussi les autres membres du village. Et nous, on refuse d'être la cause de la mort de n'importe quel autre être vivant. Donc, on a commencé à réfléchir à comment transformer notre production en production écologique, en production biologique. Avant de parler de ça, je voudrais dire une chose. Je sais que la situation dans le monde de l'agriculture, partout la situation est très compliquée. Et qu'il y a une augmentation du coût des produits de la terre, aussi parce qu'il y a un danger lié à cette pollution, un danger lié au travail de la terre. Et en Palestine, les dangers liés au travail de la terre sont encore plus forts, parce que nous, en tant que Palestiniens, qu'agriculteurs palestiniens, nous sommes visés par l'occupation. Parce que l'objectif de cette occupation, c'est de venir déraciner un peuple, le peuple originaire de sa terre, pour en planter un autre. Et donc l'occupation sait quel est ce lien organique et très fort entre tout paysan, tout agriculteur palestinien et la terre, les arbres. Et donc son objectif, c'est de nous pousser à laisser vide cette terre pour qu'elle puisse être confisquée et utilisée pour construire des colonies. Et nous donc, notre présence et notre activité agricole faisaient partie de cette lutte pour la présence. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur Gaza et un peu sur l'expérience de Gaza en fait et l'expérience agricole à Gaza qui a essayé d'être menée. Toi, tu as un peu des exemples de ce qui a été mis en place pour justement l'autonomie, refuser un peu l'aide extérieure qui de toute façon ne rentrait plus à cause du blocus, mais voilà, comment ça s'est mis en place à Gaza et qu'est-ce qui a été des fois concrètement fait. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui des fois font rêver certains agriculteurs ailleurs, que ce soit redécouverte d'insectes pour éviter les insecticides et autres qui sont vendus souvent par des grosses multinationales.
On a des expériences très intéressantes qui ont été mises en place à Gaza. Il y en a d'autres aussi que tu as pu observer en Cisjordanie aussi qui sont très intéressantes. On a effectivement un contexte où la dureté de la répression et l'ampleur de la violence fait que on a des personnes qui sont tout le temps en train d'imaginer des nouvelles façons de tenir ou qui sont en train d'importer des techniques observées ailleurs pour pouvoir les mettre en place ici et essayer de s'en sortir par ça. Ce qui se passe à Gaza, qui est un peu différent de ce qu'on a en Cisjordanie, c'est que, je le disais tout à l'heure, on a ça qui se met en place à une échelle gouvernementale. C'est un tout petit territoire, donc quand on parle de gouvernement, ça fait à peine une municipalité en France, quoi. Mais ça reste quand même assez conséquent, parce qu'on parle d'une population de 2 millions. On parle de quand même des espaces voilà, assez conséquents pour l'agriculture et d'une capacité de gouvernement de coordination avec différents acteurs, du coup. Le fait de pouvoir mettre sur une même table des ministères, que ce soit l'économie, l'agriculture, le travail ou encore la santé et l'éducation, de pouvoir amener des universités et de l'autre côté d'amener des coopératives et des ONG, etc. Ça a permis à ces initiatives de prendre une autre ampleur qui n'est pas prise en Cisjordanie, où on est à une échelle très très petite, de travail souvent à une échelle micro. Pourquoi je dis plusieurs ministères, par exemple? Parce que à Gaza, le ministère de la Santé va par exemple pouvoir donner ses priorités en termes de médicaments et par l'agriculture, il va y avoir cette volonté de passer par des plantes médicinales pour essayer de pallier au manque de médicaments, ce qui pouvait être produit, en tout cas, pas tout, évidemment, mais et même très peu, mais finalement, il y avait quand même cet objectif-là. Ministère de l'économie et du travail, d'essayer de voir comment est-ce que ça pouvait devenir un secteur qui allait employer des Palestiniens pour assurer un revenu, mais aussi de créer, par exemple, une connexion entre ces producteurs et les consommateurs, et donc de travailler sur la facilitation de paniers qui vont arriver très très vite aux consommateurs sans qu'il y ait trop de relais et d'intermédiaires pour voilà, faciliter des bas prix, etc. D'ailleurs, la fixation des prix, par exemple, est quelque chose qui compte beaucoup. C'est-à-dire que le gouvernement arrivait à indiquer soit un prix maximum pour certains produits, soit à au moins afficher les prix sur l'ensemble du territoire, qui faisait que ça empêchait certains d'aller trop haut parce que par le phénomène de la concurrence, ils devaient se tenir au prix. Donc il y a un gouvernement qui se donne les moyens d'intervenir dans l'économie. Et notamment, par exemple, par la création de fermes expérimentales. Je parle du gouvernement pas pour minimiser les initiatives individuelles et associatives, parce qu'elles ont été aussi très très importantes à Gaza, mais peut-être parce que c'est aussi ça qui m'a intéressé, c'est que c'est ce qui m'a paru inédit. En fait, on a plein de familles super ingénieuses qui ont transformé des toits en béton en jardins merveilleux. Utiliser des panneaux solaires, des techniques d'hydroponie pour voilà, pallier au manque de terre et pouvoir économiser l'eau, etc. Donc on a plein de techniques comme ça qui sont mises en place. On a des associations aussi et des ONG qui vont travailler et faire un vrai travail de, là aussi, de mise en lien entre les familles et les producteurs, etc. Donc on a un vrai travail qui n'est pas seulement gouvernemental. L'échelon gouvernemental, pour moi, il me paraît intéressant, c'est de montrer que c'est possible aussi, quand on a une vraie volonté politique, de faire passer l'expérience à un niveau au-dessus, et qui est le niveau de la planification un peu plus à long terme, c'est-à-dire d'avoir une politique où on a un gouvernement qui se dit, bah, moi, sur les 3-4 prochaines années, il faut que je plante 10 000 oliviers ou 100 000 oliviers, et vont tout faire pour encourager cette production de plants d'oliviers qui vont être redistribués, etc. Et qui va arriver à dire il faut qu'on obtienne l'autosuffisance à une échelle du territoire dans un certain nombre de produits. Ça commence en 2006, 2007-2008, pardon. Et au bout de 2-3 ans, il y avait une autosuffisance. Ça, c'est des choses qui ont été chiffrées du coup et documentées. Une autosuffisance qui est obtenue, pas une autosuffisance, ils disent une autosuffisance relative, c'est-à-dire que ça atteignait les 70% à 80% des besoins dans la plupart des fruits et légumes. Mais donc des fruits et légumes qui avaient fini à Gaza par être importés depuis Israël, et ben finalement la bande de Gaza va réussir à se passer de ces importations qui ont. En plus, il y avait blocus, donc, mais à ne plus dépendre des moments où Israël ouvre le robinet et à dire au moment où Israël ouvre le robinet, non, mais en fait, nous, on ne veut pas de ces produits, on les a déjà. On a réussi à. Et donc, ça veut dire produire des pommes de terre, des oignons, des carottes, C'est des choses qu'on n'a pas en Cisjordanie aujourd'hui, qu'on importe beaucoup d'Israël. C'est produire tout un tas de produits comme ça, vraiment du quotidien, et ne pas dépendre des importations pour ça. Ça va être aussi des pastèques, des melons, enfin tout un tas de fruits comme ça. Juste pour donner un peu quand même le contre-exemple, la bande de Gaza depuis 67 avait été amenée petit à petit par les Israéliens d'abord, puis avec l'aide de l'Union européenne ensuite dans des projets de développement pour favoriser les exportations agricoles, puis par l'autorité palestinienne après 93 qui avait la même logique finalement d'exportation agricole. La bande de Gaza avait fini par se spécialiser dans les fraises, les tomates cerises, les fleurs. Des produits qui, en fait, ne peuvent pas nourrir la population locale et sont uniquement destinés à l'exportation contre saison en Europe, etc. Donc, c'est du cash rapide, etc. Sauf que c'est une production qui dépend complètement du bon vouloir israélien, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, Israël ferme le robinet, la frontière, c'est terminé, les gens meurent de faim. Et donc, c'est vraiment, il y a quelque chose de très stratégique dans le fait de dire, bah, en fait, non, on transforme nos champs de fleurs et nos champs de fraises en champs où on va pouvoir planter aussi des haricots, des pommes de terre, des choux-fleurs, etc. C'est quelque chose qui a permis au gouvernement de Gaza de mettre en avant voilà, des vraies réalisations sur le plan économique, mais qui du coup ont été systématiquement visées à chaque guerre. C'est-à-dire que ce soit en 2008-2009, en 2012, en 2014, ou en 2021, ou encore plus après 2023, là, toutes ces installations agricoles sont systématiquement visées, ciblées, pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire comme étant des instruments de subsistance et d'autonomie économique. On a des rapports là aussi d'Amnesty International, de l'ONU, qui montrent que il s'agissait absolument pas de cibles militaires. C'est-à-dire qu'en aucun cas, il pouvait y avoir un doute sur le fait qu'on était face à des installations purement économiques et qui ont été ciblées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des installations économiques.
On écoute maintenant la deuxième partie du témoignage de Fayez.
Et
nous donc, notre présence et notre activité agricole faisaient partie de cette lutte pour la présence. Et donc, quand tu vas vers l'agriculture biologique, c'est encore plus compliqué. Et aussi parce que, et je suis désolé de le dire, parce que ici en Cisjordanie, il n'y a pas encore une vraie culture complète ou une connaissance très développée sur ce que ça veut dire en fait l'agriculture biologique. Il n'y a pas les infrastructures pour tout ça, il n'y a pas de base pour tout ça, il n'y a pas de graines biologiques et tout ce qu'il y a dans d'autres pays qui permet l'agriculture biologique n'est pas très présent ici en Cisjordanie. Et donc tu dois faire encore plus d'efforts pour trouver tout ce dont tu as besoin pour mettre en pratique ce type d'agriculture. Et donc c'est vraiment un effort pour réussir à trouver, pour accomplir tout ce que tu as décidé. On s'est donc adressé à une association palestinienne qui délivre des diplômes officiels, des attestations officielles d'agriculture biologique, de produits biologiques. C'était donc un programme de formation de 3 ans. Et au bout de ces 3 ans, on a donc obtenu ce diplôme, cette attestation qui atteste donc que tous nos produits sont des produits biologiques qui n'ont pas reçu des produits chimiques à l'intérieur. Et on a dû dépenser beaucoup d'argent, et c'était pas facile pour trouver toutes les outils, toutes les matières dont on avait besoin. Il y avait seulement des chemins très longs et très difficiles à prendre. Surtout quand on devait trouver les produits biologiques pour soigner les plantes, contre les parasites, plutôt que d'utiliser les produits chimiques qui étaient présents en 48 chez l'occupation. Et donc beaucoup de produits dont tu as besoin, t'as pas d'autre choix que de l'acheter à l'occupation. Et ces produits sont très chers. Et en même temps, tu dois vendre, toi, tes produits bio sur le marché palestinien. Les produits bio que tu vends sur le marché palestinien, en raison d'un manque de conscience de je parlais avant, Et tu ne peux pas les vendre plus cher parce que les gens ne connaissent pas la valeur de l'agriculture biologique. Et c'était compliqué parce que des fois, les gens ne comprennent pas. Donc, tu dois baisser le prix. Et donc, parfois, il y avait une difficulté parce qu'il y avait un décalage entre tout ce que l'on dépensait pour avoir un produit biologique et le prix auquel on pouvait le vendre. Et malgré nos difficultés, on a continué nos efforts. Et évidemment, pendant toute cette période-là, l'occupation ne nous a pas laissés tranquilles. Chaque fois, ils ont détruit des choses, ou ils nous ont tabassés. Et par exemple, en 1999, sans aucune raison, l'occupation est venue et a détruit complètement la ferme. La ferme était devenue un amas de gravats, juste un cumul de gravats. Et en 2001, pendant la première intifada, les soldats sont venus la détruire encore une fois. Et en 2003, quand ils sont venus construire le mur de séparation, ils sont venus et ils ont détruit partiellement la ferme. Et à cette occasion-là, en plus d'avoir détruit partiellement la terre, ils ont pris au moins 50% de la ferme pour construire le mur de séparation. Parce que notre terre faisait 3 hectares, ils nous ont pris 1,5 hectare. Et ça c'est un coup très dur. Notre travail, nos projets, nos efforts. Malgré tout, on est resté, on a continué à travailler notre ferme, malgré toutes les agressions de l'armée, malgré toutes les agressions des patrons de l'usine israélienne, qui de façon très très fréquente venaient agresser la ferme, nos arbres. Mais nous, on a continué, on est resté jusqu'au 7 octobre. Et entre-temps, j'aimerais vous dire que notre ferme s'est beaucoup développée. On a pu avoir 12 serres. On a environ 1 hectare de serres, où donc on peut changer la température, les conditions de température, et donc produire des choses qui ne seraient pas possibles de produire à l'extérieur. Et donc, à travers ça, en choisissant quels végétaux vont aller à l'intérieur et en utilisant cette serre, ça va permettre de diminuer l'utilisation de produits chimiques pour protéger leur croissance, leur pousse. Et en même temps, il y a toute une partie où il y a des arbres fruitiers. Donc on a des clémentines, des figues, des oranges, la guava, l'avocat, la mangue, les raisins, la quicheta. Et on a aussi des ruches pour les abeilles, pour produire le miel. Et en plus de tout ça, à cause des conditions que l'on traverse, des conditions que l'on vit, on a appris des choses. Parce que quand on s'est trouvé face à des prix très chers pour nous procurer les matières et à l'impossibilité de pouvoir les vendre au prix qu'ils le méritent, à cause d'un manque de conscience, de connaissances et de disponibilité ici en Cisjordanie, nous sommes dit comment faire, comment trouver une autre solution pour pouvoir baisser le prix, trouver un prix plus juste. Nous sommes partis, on a adopté cette idée comme quoi, dans le monde, dans la nature, toutes les matières premières sont disponibles à chaque être vivant si on arrive à boycotter le système capitaliste, si on arrive à être en dehors du système capitaliste, si on utilise tout ce que l'on trouve dans la nature et si on boycotte et on rompt le lien avec toutes les entreprises capitalistes qui nous vendent les produits de la nature. Et donc, par exemple, on a appris comment produire de l'énergie nous-mêmes dans la ferme, notamment avec le gaz méthane avec lequel on a produit de l'énergie, de l'électricité à travers ça. Il y a aussi l'utilisation d'un système solaire pour sécher les légumes et les fruits. On a aussi produit de l'énergie à travers la bouse qui nous était vendue à un prix bas, et donc en utilisant les panneaux solaires. Toute cette énergie nous a permis de vendre à un prix bas, et que malgré tout, on allait quand même réussir à se faire une marge sans devoir rajouter des produits. Puis on a utilisé de pluie, donc on a conservé l'eau de pluie dans des grandes citernes qui nous permettaient après d'arroser toute la ferme. Puis on a commencé à trouver des alternatives, à nous libérer de toutes ces graines des grosses compagnies comme Monsanto, Bayer. Et donc on a réussi à chasser ces produits pour les remplacer par des graines locales. Et puis on a eu cette idée d'utiliser les poissons, donc on a créé un bassin avec des poissons à l'intérieur. Et donc on a arrosé les plantes avec l'eau où il y avait les poissons, ce qui permettait de donner des nutriments aux plantes, ce qui allait nourrir les plantes. On a aussi créé du compost à partir de la bouse, cette même bouse avec laquelle on produisait du gaz méthane. Donc on a créé du compost avec les restes aussi des fruits et des légumes qui pourrissaient, que l'on n'utilisait pas. Et donc ça, c'était toutes des formes de résistance qui nous ont permis de créer, enfin en tout cas de remplacer toutes ces matières qu'on allait chercher auprès de l'occupation, de l'occupant, ou auprès des entreprises capitalistes. On a tout remplacé par des produits naturels, et ça nous a donc permis d'épargner de l'argent, donc de ne pas le donner à l'occupation. Et donc la situation commence à être stable pour nous. Et puis le 7 octobre, enfin le lendemain de 7 octobre, on a trouvé les soldats de l'occupation dans la ferme. Pendant 18 mois, nous n'avons pas pu aller à la ferme. On n'a pas pu mettre un seul pied dans la ferme. Et donc pendant ces 18 mois, les soldats de l'occupation ont détruit les serres qu'on a créées, ces serres qui étaient pleines de produits, pleines de fruits, pleines de légumes. Ils ont coupé tous les tuyaux, les plastiques, parce qu'ils ont dit que pour des raisons de sécurité, ils avaient besoin d'avoir un visuel net et que le plastique, toutes les serres allaient empêcher l'armée d'avoir une bonne vision. Et donc, pendant cette période aussi, la ferme a brûlé à plusieurs reprises à cause des gaz lacrymogènes qui étaient jetés dedans. Donc beaucoup de serres ont aussi brûlé. Et les poissons sont morts parce que pendant 18 mois, personne n'a pu les nourrir, ni mettre de l'oxygène. Il n'y avait pas d'électricité. Donc ça a été coupé pendant 18 mois. Certains des arbres étaient encore vivants, mais d'autres étaient morts parce que personne ne les avait taillés, arrosés, pu les soigner. Et donc tout ça, c'était une destruction presque totale de notre ferme. Et donc après 18 mois, on a pu petit à petit revenir à la ferme et essayer de recommencer depuis le début. Et donc on a commencé petit à petit. Mais peu après qu'on ait commencé, le 7 août, nous avons trouvé l'armée, encore une fois dans notre ferme, qui nous a amené un papier sur lequel il y avait une décision officielle d'interdiction de travail dans la ferme, sous peine de destruction. Et qu'il fallait enlever tout ce qui dans la ferme pouvait entraver une vision claire et complète au loin pour l'armée. Et donc, comme je vous dis, il y a la piscine avec les poissons, il y a les serres, il y a aussi un demi-hectare d'arbres fruitiers, et tout cela doit être enlevé. Nous nous sommes opposés à cette décision au sein de la cour au tribunal israélien, mais pour l'instant, on n'a eu aucune réponse. Et donc à chaque instant, on ressent cette tension, cette peur, ce stress de ne pas savoir quel est le sort de notre ferme, quelle va être la décision de l'occupation. Et donc je pense que maintenant, après ces 2 ans, tout le monde a pu voir à quoi ressemble le vrai visage de l'occupation. Et combien l'occupation israélienne respecte la vie humaine et les droits internationaux. Et donc on est dans ce situation de tension, de frustration, parce qu'on ne peut pas travailler à la ferme. On ne peut pas remplacer des choses, on ne peut pas construire, parce que sinon l'occupant, comme il a dit qu'il s'il y a tout type de travail, il va démolir. Et en fait, ils viennent prendre en photo tout ce qu'il y a dans la ferme, comme ça ils peuvent contrôler si on a racheté quelque chose, si on a planté quelque chose, si on a modifié quelque chose. Et ils peuvent utiliser ça comme raison pour détruire la ferme. Et on est donc dans l'attente de savoir qu'est-ce qui va arriver. Et je vous remercie pour l'écoute et l'attention. Alors si vous voulez écouter ou rencontrer Fayez, sachez qu'il sera présent à la Fraternité de la Belle de Mai le 24 et 25 janvier pour un week-end où on parlera d'agriculture et d'anticolonialisme. Voilà, la Fraternité, c'est 7 rue Burel à la Belle de Mai à Marseille.
انهض للثورة والتاريخ
انهض للثورة والتاريخ
انهض كهبوب الأعصار